d'intuition. Le mathématicien est un homme d'intuition, du moins certains mathématiciens, pas tous, parce qu'ils se divisent en deux. Il n'y a pas que les philosophes qui se divisent en deux, même les mathématiciens. Il faut entendre Poincaré raconter ça. Et Poincaré raconte admirablement ce que c'est qu'une intuition mathématique. J'ai jamais vu quelqu'un qui racontait de cette manière aussi étonnante, l'intuition mathématique. L'intuition porte sur un rapport. Je crois que toute intuition porte sur un rapport. Il y avait quelque chose qu'on n'avait pas saisi. Tiens, oh, c'est étonnant. Il y a une relation entre telle couleur et telle autre couleur. Oh, comme c'est merveilleux. Il y a une mise en relief. C'est pour ça que je dis ça porte sur une relation, ça porte sur un rapport. Toute intuition porte sur un rapport. L'intuition ne porte pas nécessairement et n'implique pas nécessairement le jugement d'existence. Ça peut très bien porter sur une réalité possible. Je peux avoir des intuitions dans mes rêves. Il y a des rêves qui m'ont apporté des intuitions. C'est extraordinaire, parce que les rêves portent sur quelque chose du possible. C'est l'imaginaire, c'est le possible. C'est pas la réalité existante, c'est le possible. Le domaine de l'intuition est donc un domaine plus intérieur que le domaine de l'expérience externe. Et ça porte sur le rapport, sur une relation, sur une harmonie, donc sur une forme, et pas sur ce qui est. C'est pour cela que je dirais que la philosophie qui doit aller le plus loin possible dans l'ordre des connaissances va s'appuyer au point de départ, sur l'expérience externe et non pas sur l'intuition. Toute intuition présuppose des quantités d'expérience. Un artiste qui est pris, saisi par une intuition, ce sera son inspiration. Je crois que l'inspiration implique toujours une intuition. Mais avant d'avoir des inspirations, il faut avoir vu beaucoup de choses. Il faut avoir goûté beaucoup de choses, avoir expérimenté beaucoup de choses. Puis tout d'un coup, je ne sais pas trop comment ça se fait, tout d'un coup, il y a une espèce d'inspiration. Mais c'est très vrai que l'inspiration est enveloppée par toute une série d'expériences. L'artiste aime de goûter les choses, de voir des choses diverses, de palper des choses. Il est comme ça, c'est un homme d'expérience. Mais ce n'est pas l'expérience qui lui permettra de réaliser quelque chose. Non. C'est l'inspiration. Alors, la connaissance artistique qui réalise quelque chose commence par l'inspiration. Tandis que la philosophie, c'est là la très grosse différence entre la philosophie et l'art. C'est une très grosse différence entre les deux, il ne faut pas bloquer les deux. C'est deux choses différentes. Le philosophe n'est pas un artiste. Et l'artiste n'est pas un philosophe. Ils peuvent s'entendre. Il peut y avoir des points de vue communs. Parce que le philosophe doit comprendre l'artiste. Et le philosophe ne téléguide pas l'artiste. Ce serait très très mauvais. Le philosophe doit essayer de comprendre comment l'homme, dans ses dimensions profondes, implique l'art. Un homme qui n'aurait aucun sens de l'art, ça pourrait devenir un monstre. Ça pourrait devenir un monstre. Et que l'artiste donne une dimension de l'homme. Et le philosophe doit essayer de comprendre quelle est la dimension de l'art, quelle est la dimension morale, quelle est la dimension de la connaissance, et ainsi de suite. Et il essaie de comprendre ces différentes dimensions. Alors je crois qu'on pourrait dire que les mathématiques commencent par une intuition, l'art commence par une inspiration qui implique une intuition, mais la philosophie, elle, doit commencer plus humblement. Par l'expérience. Ceci n'empêche absolument pas le philosophe d'avoir des intuitions. Un philosophe qui n'aurait jamais d'intuition, il serait un peu rasoir. voyez, ce serait le philosophe qui serait le logicien par excellence. Vous voyez, la philosophie dite scolastique s'est terminée dans les derniers moments, la décadence scolastique s'est terminée dans la logique. Ça, c'est l'enterrement de première classe. Et là, à ce moment-là, il n'y a plus d'intuition. Il n'y a plus qu'une mise en place très propre. Mais il n'y a plus d'intuition, il n'y a plus de rajeunissement. Les rajeunissements se font par l'expérience et l'intuition. Mais l'intuition permet au philosophe d'interroger. Et le philosophe ne construit pas sur l'intuition, mais grâce à l'intuition, il interroge. Et il revient sur la réalité. Parce que pour saisir en profondeur la réalité, il faut interroger. Et je crois qu'à la base de toute interrogation, il y a une certaine intuition. Quelque chose de très intéressant à voir, je ne le vois pas maintenant, mais ce serait le point de départ justement de ce que représente la philosophie première, la métaphysique. Quand je dis « ceci est », je suis, vous existez, la vache existe, le chien existe, puisqu'ici c'est plutôt un chien, le chien existe, les chiens existent, ils existent de façon très diverse, l'arbre existe, l'eau qui coule là, elle existe, le pantareil, hein, ça coule tout le temps, ça existe. Comment se fait-il que toutes ces réalités existent? Quand je regarde toute cette diversité, je dis, ceci existe, ceci est. Alors à ce moment-là, l'interrogation, qu'est-ce que c'est qu'exister? Qu'est-ce que c'est que l'être? Vous voyez comment l'interrogation est venue? Elle est venue en fonction de tous ces rapports multiples et divers qui impliquent quelque chose de commun dans leur diversité. Quand je dis la vache existe, j'existe. Il y a quelque chose de commun entre la vache qui existe et moi. Mais qu'est-ce qu'il y a de commun? C'est pas si commode que ça de le voir. Quand je dis cette table existe, j'existe. Parce que cette table ne pourrait très bien pas exister, n'est-ce pas? Je pourrais être pris par une espèce de... Alors, voyez comment je saisis la diversité et l'unité, et par là l'intuition commence. Les intuitions se font à travers une certaine unité dans la diversité. Et alors à ce moment-là, il y a une certaine intuition qui va me faire poser une interrogation. Je crois que c'est exactement la même chose chez le savant. Quand un savant se pose une hypothèse de recherche. Vous voyez, l'hypothèse de recherche est à la science ce que l'interrogation est à la philosophie. Et ça, c'est très important de le voir. L'hypothèse de recherche, si on n'a pas d'hypothèse de recherche, on ne trouve rien. Il faut une hypothèse de recherche. Or, une hypothèse de recherche vient d'une certaine intuition. Il faut une certaine intuition. Il faut devancer. Vous voyez, l'intuition devance. Elle ne donne pas la solution. Elle dit, c'est peut-être ça. Il y a quelque chose. Et ça permet l'interrogation. Et ça permet donc à l'esprit de progresser. C'est pour ça que l'intuition est très importante, mais l'intuition n'est pas le fondement de la philosophie. Donc vous voyez, c'est là un très gros problème qui est très très intéressant parce que je crois que de fait, il y a les philosophies de l'inspiration, de l'intuition, de l'inspiration. Il y en a. Platon, Heidegger, je prends l'exprès les deux. Platon et Heidegger, pour moi, ce sont des philosophies de l'intuition et d'inspiration. Ce sont des philosophies esthétiques. Des philosophies esthétisantes. Vous voyez, même Bergson, ce sont des philosophies esthétisantes. C'est très intéressant, parce qu'ils décrivent admirablement. Ce sont des philosophies de description. Et souvent, ce sont des grands artistes. Platon est un grand artiste, on peut pas nier. Heidegger est un grand artiste, à sa manière. Ce sont des artistes. Mais ce ne sont pas des philosophes parce qu'ils n'analysent pas assez. Il y a un manque d'analyse. Il y a un manque d'analyse et par le fait même, il y a un manque de saisie des principes, des causes et de la fin. Ils vont pas jusqu'au bout. Ils restent toujours un peu, vous voyez, entre deux. C'est très intéressant ce qu'ils disent, mais ce n'est pas de l'art et ce n'est pas de la philosophie. C'est entre les deux. Alors les artistes trouvent qu'ils ne sont pas assez artistes et les philosophes trouvent qu'ils ne sont pas assez artistes. Vous voyez, c'est un petit peu comme Teilhard. Teilhard était un peu comme ça. Je crois que c'est une philosophie d'intuition. Et ce n'est pas une vraie philosophie, ce n'est pas assez analysé. Mais il avait des intuitions, il a eu des intuitions étonnantes. Alors, ce sont des gens très intuitifs, au fond, qui sont comme des artistes. Mais qui ne sont pas vraiment artistes, parce qu'ils se disent philosophes et qu'ils veulent être philosophes. C'est très curieux, ça. Bon. Oui, ça, c'est un très gros problème, oui.
Au sujet de ce que vous avez dit ce matin à propos de la psychologie.
Ah oui, oui, oui.
Le lien entre le péché originel et la psychologie, le lien entre l'innocence et la psychologie. Pourquoi un être innocent n'aurait-il pas de psychologie ?
J'ai mis ça en point d'interrogation, hein. J'ai pas conclu. Hein. J'ai posé ça à titre d'hypothèse. Parce que ce serait le cas de la Vierge Marie. Est-ce que la Vierge Marie statait le pouls ? Il faut se demander si elle était fatiguée ou pas fatiguée. C'est ça que je veux dire. Hein. Au fond, le développement de la psychologie, je me demande toujours, c'est un gros problème que je me pose ici, le développement de la psychologie n'est-elle pas, ne correspond-il pas à un moment de fatigue de l'humanité ? Alors on étudie son comportement, sa manière de voir les choses, les difficultés, les oppositions, les échecs. Surtout quand on a des échecs, on devient psychologue. Quand on a des échecs, on se dit, je vais analyser ça, d'où ça vient. Je deviens aboulique. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive plus à me lever le matin. J'entends le réveil, et puis quand j'entends le réveil, je dis, non, continue de dormir. Vous voyez? Je deviens éboulique, d'où ça vient. Donc, si je me réveillais spontanément, je ne me poserais pas de problème. Vous voyez, chaque fois qu'il y a des échecs, chaque fois qu'il y a des difficultés, je réfléchis en disant d'où ça vient ça. Ah, peut-être qu'hier, il y a eu telle chose, n'est-ce pas? Je n'ai pas eu assez de joie hier, j'étais triste. Il y a eu. Ah, ça vient de là, vous voyez, alors, je me rattrape. Parce que mon oreiller, au moins, il ne me donne pas de coups, il est doux. Et j'aime bien être doux. J'aime bien être enveloppé de douceur. Vous voyez, alors c'est l'oreiller. Donc je le chéris. Vous voyez, et alors que le réveil est là, il vient me rappeler des choses. C'est très curieux, ça. J'essaie d'étudier tout de suite hein, toutes les différents aspects. Et c'est très vrai, ça, voulez-vous. Vous n'allez chez un psychanalyste que quand ça ne va pas. Je ne crois pas que vous y allez de gaieté de cœur, parce que ça coûte cher. Alors vous n'allez chez un psychanalyste que quand vraiment ça ne va pas, ça ne va plus du tout, vous ratez tout successivement, et vous dites, je veux absolument quand même réussir. Alors quand il y a des échecs successifs, vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors on vous dit, allez voir un psychologue. Allez voir un psychanalyste, il va vous donner des bons conseils, il va vous aider, alors vous allez le voir. Si, quand ça va très bien, vous croyez qu'un sportif va chez un pharmacien? Quand il est sportif et qu'il marche très très bien, ça marche merveilleusement. Ah, il va chez le pharmacien, chez le médecin quand il s'est cassé une jambe. Alors là, il est bien obligé. Oui, c'est très curieux. La psychologie, c'est cette attitude réflexive sur nos comportements, sur notre manière d'être. Alors, la psychologie prend une place d'autant plus importante qu'il y a eu des murs qui nous ont arrêtés. Alors, à ce moment-là, on est très attentif. Mais autrement, quand ça va bien, je regarde la finalité, moi. J'ai beaucoup de boulot, j'ai pas le temps de me tâter le pouls. Après avoir fait quelque chose, je refais autre chose, et puis c'est tout. Et puis ça va bien. Puis je mange bien, je dors bien. Ça va très très bien. Donc je ne fais pas de psychologie à ce moment-là. Je me souviens, dans un dialogue que j'ai fait avec des psychanalystes à Paris pendant 15 ans. Pendant 15 ans, je ne me suis pas fait psychanalyser. Mais non, j'ai dit que je n'étais pas un client. Parce que je leur ai dit, moi, je ne sais pas ce que c'est votre inconscient, je ne sais pas ce que c'est. J'en ai peut-être un énorme. Parce que, mais non, je ne sais pas ce que c'est. Je me blaguais par rapport à eux, pas exprès. Parce qu'un beau jour, ils m'avaient conduit comme ça en Suisse, et j'avais laissé mon passeport, vous voyez, dans ma valise, parce qu'il était un peu gros, et puis j'avais déjà assez de papier, je trouvais que ce n'était pas la peine. Alors, dès qu'on arrive à la douane, je dis, ah, oh, j'ai laissé mon passeport dans ma valise. Ah, tiens, tiens. Ah, un acte manqué. Oui, un acte manqué, oui, mais alors quoi? Ben oui, oui, c'est très significatif. Ah, vous n'avez pas envie du tout de retourner à Fribourg? Pas différent. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Alors, on a analysé ça pendant un petit quart d'heure. Puis, j'aurais dit, oh, vous savez, moi, je crois que c'est beaucoup plus simple que ça. Mais quoi, c'est plus simple? Mais oui, j'avais pas mal de papiers, les choses, moi. J'aime pas beaucoup de porter comme ça, c'est un peu lourd. Moi, j'aime mieux mettre dans la valise. Mais oui, c'est beaucoup plus simple. Moi, je sais très bien que quand je suis... Alors, on est passé dans d'autres domaines. On est passé dans le domaine de l'oubli. Je dis, quand je suis fatigué, j'oublie beaucoup plus de choses que quand je suis pas fatigué. Vous voyez bien? Donc, j'explique les oublis par la fatigue. Eh bien, on peut tout expliquer d'une manière ou d'une autre. Il y a deux explications, l'analyse psychologique et l'analyse de la finalité. Tout peut s'expliquer. Mais dès que je suis fatigué, évidemment, le facteur psychologique reprend une très grande importance. Vous allez être un tout petit peu lucide vis-à-vis de vous-même. Vous verrez ça. Quand vous êtes fatigué, vous êtes en face d'un échec. C'est une autre manière d'être fatigué. Dès qu'on est dans 20, alors immédiatement la psychologie prend beaucoup plus de place. Tandis que quand on est bien portant, quand ça va bien, on est finalisé. C'est ça que je voulais dire, vous voyez? C'est quand on est parfaitement finalisé, on se tâte moins le pouls. Et on a moins besoin qu'un autre vous tâte le pouls. Parce que ça va bien. Tandis que dès que vous commencez à avoir la fièvre paludienne, n'est-ce pas, vous dites, ah, j'ai la fièvre, ah, il faut quand même voir un tout petit peu ce qui se passe, ça ne va pas très très bien. Mais j'ai la fièvre quarte ou la fièvre, et ainsi de suite, n'est-ce pas, toutes les fièvres possibles que vous pouvez regarder. Parce que quand ça ne va pas, on comprend très bien ça. Alors, ce que je voulais dire, c'est que dans une perspective théologique de foi chrétienne, je suis né dans le péché. Et en ce sens-là, je n'ai rien d'original. Parce que vous aussi, vous êtes né dans le péché. La seule différence, c'est qu'étant plus âgé que vous, le poids du péché est plus lourd pour moi que pour vous. Ça, c'est très vrai. Quand on est jeune, on ne s'aperçoit pas beaucoup de ce poids du péché. Tandis que quand on prend de l'âge et qu'on se sanctifie, on sort davantage des conséquences du péché et on s'en aperçoit davantage. Très très vrai, ça, c'est un fait, vous verrez ça, quand vous serez plus âgé, vous direz, tiens, on m'a dit ça dans le temps, mais c'est vrai, j'avais pas pensé. Vous ne pouvez pas le penser maintenant, c'est impossible. Mais c'est très vrai que plus on avance dans la vie, plus on s'aperçoit que cette vérité si grande, on est né dans le péché, est quelque chose de juste. Et c'est presque une évidence. On est né dans le péché. Il y a un poids en nous de conséquences du péché. Les trois concupiscences. Hein, les trois concupiscences, dont parle Saint Jean. Les trois concupiscences. La concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et la concupiscence de la vie. Les trois concupiscences. L'Église, la foi nous fait comprendre que ces trois concupiscences, ce sont des conséquences du premier péché. Je sais qu'aujourd'hui, on n'aime plus beaucoup d'en parler, mais c'est quand même une réalité, ça. C'est une réalité très profonde. Conséquence du premier péché. C'est un mystère, hein. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est un mystère. Dieu a voulu que ce soit comme ça. On est liés tous, premièrement et fondamentalement, dans le fait qu'on est né dans le péché. Cependant, on est né dans le péché, mais l'image de Dieu en nous demeure. Nous restons chef-d'œuvre de Dieu. Un chef-d'œuvre un peu abîmé, Les chefs-d'œuvre de Dieu, c'est quand même de la belle porcelaine. Quelque chose de très très beau. L'homme et la femme, c'est quand même quelque chose, un chef-d'œuvre de Dieu. Mais ce chef-d'œuvre est un peu fêlé. Vous voyez, c'est... Quand la porcelaine est trop belle, il y a des petites fêlures qui se font facilement. Le cristal, très très beau, mais il y a des petites fêlures. Alors, vous comprenez qu'il est très difficile pour nous de discerner, je parle ici dans la, en tant que croyant, donc en tant que théologien, c'est très difficile de discerner l'image de Dieu qui est en nous, de discerner l'état de pécheur et de discerner ensuite la grâce. La grâce sanctifiante. Il y a donc trois niveaux en moi. Trois niveaux. Il y a le niveau d'état du péché, les concupiscences, les trois concupiscences. Il y a ce niveau. Ce niveau-là est négatif. Il y a le niveau de l'image, c'est positif. Et la grâce, c'est du sur-positif. Vous avez un état négatif, conséquence du péché. Oui, c'est quelque chose qui est la boue dans l'eau. C'est la boue, c'est un état de choses qui grouillent, il ne faut pas trop les regarder, parce que quand on les regarde trop, ça ne va plus. Enfin, mais c'est toute cette boue qui grouille en nous. Les égouts de l'humanité. Hein. C'est quand même quelque chose, ça. Les trois états, les trois concupiscences qui sont en nous. Notre état de pécheur. L'image de Dieu qui est en nous, c'est-à-dire notre nature humaine. Parce que notre nature humaine implique un corps et implique une âme. Une âme spirituelle qui est créée par Dieu. Et le corps, ça dépend de tout l'atavisme. Notre corps a été formé en notre mère. Notre corps provient de tout l'atavisme. C'est bien évident. Et on sait très bien que cet atavisme, ça peut remonter assez loin. Quand vous étiez gosse, on vous a regardé pour revoir les ressemblances. Puis si ça ressemblait à un grand-père qu'on aimait beaucoup, on se dit, oh, quel petit enfant merveilleux. Tout à fait ressemble à son grand-père. Mais si jamais il y avait la ressemblance de l'arrière-grand-oncle qui était un bandit ou quelqu'un qui avait vraiment mené une vie impossible, on n'en a plus parlé. Bon, ça, c'est évident, heureusement. Bref. Mais notre corps dépend de tout un athénisme. Et notre âme est créée directement par Dieu. Alors il faut vous dire que vous ressemblez plus à Dieu qu'à vos propres parents. Ça vous soulage beaucoup. Vous ressemblez plus à Dieu qu'à vos propres parents. Il y a une ressemblance plus fondamentale à l'égard de Dieu qu'à l'égard de nos propres parents. Si on comprenait ça, on ne s'opposerait plus à ses parents. Ça serait merveilleux. On comprendrait qu'il y a une ressemblance plus radicale à l'égard de Dieu qu'à l'égard de ses propres parents. C'est par notre corps que nous ressemblons à nos parents. Donc c'est second. Ce qui est important, c'est notre âme. Et notre âme spirituelle est créée directement par Dieu. Pour chacun d'entre nous, il y a eu un acte du Créateur propre pour chacun d'entre nous. Il y a eu un don d'amour pour chacun d'entre nous. Directement de Dieu, sans intermédiaire. Cette âme a été créée dans notre corps, sans doute au premier moment de la conception, et par le corps, il y a eu contamination. Contamination, c'est-à-dire le lien avec le premier péché. Et il y a eu cette contamination qui s'est réalisée à travers la faute première, les conséquences de la faute, qui sont les trois concupiscences. Ceci, donc, tout ceci, au point de vue, dans l'ordre du temps, dans l'ordre génétique, tout ceci est de l'ordre naturel, vous comprenez bien. C'est comme naturel à nous. Tout est comme naturel à nous. Tout ceci. C'est le code naturel à ce que représente notre propre, notre nature liée à cet état de pécheur et notre âme qui est là présente dans, dans toute cette complexité que représente notre nature et les conséquences du péché. La grâce vient en seconde, c'est une seconde naissance. Donc ici, c'est la première naissance. Ça, c'est une analyse théologique. Le théologien peut discerner, il doit le faire, dans la lumière de la foi, ces trois étapes, ces trois niveaux. L'état, conséquence du péché originel qui sont en nous. La nature humaine qui est en nous, créée à l'image de Dieu. Et la surnature. Maintenant, je change de vitesse. Je me place du côté psychologique. Prenez bien, je change de vitesse. Je ne dis pas que je prends la machine arrière, hein, mais je change de vitesse. C'est une autre vitesse. C'est une autre, un autre regard. Ce que je disais ce matin. Il y a des regards différents. Et on peut très bien savoir les regards différents. Un psychologue, qu'est-ce qu'il regarde? On est tous suffisamment fatigués pour faire un peu de psychologie. Donc, un psychologue, qu'est-ce qu'il regarde quand il est au repos? Il fait attention à ces différents aspects qui sont en lui. J'ai en moi, je sais bien, une propension extraordinaire à la colère. Je prends ça parce que c'est énorme, hein, la colère. Parce que je pourrais dire une propension à la concupiscence. J'aime énormément le chocolat, j'aime énormément le vin. J'aime l'alcool, c'est une tentative que je vois une bouteille, je ne peux plus, c'est impossible autrement, je suis obligé de la prendre, c'est impossible autrement. C'est vrai, ça existe, ces gens-là, rappelez-vous. Quand ils sont pas trop alcooliques, ils vont dire, il faut à tout prix me désintoxiquer de cette maladie que j'ai. Nous avons tous en nous des désirs. Quand vous passez devant une boulangerie le matin, que vous n'avez pas mangé du tout, vous sentez cette bombe, bon, alors psychologiquement, vous pouvez réfléchir sur ça. Qu'est-ce qui s'éveille en vous à ce moment-là? Il s'éveille en vous un appétit, un désir de prendre un petit croissant, de prendre un petit chocolat. Très bien. On arrive de France, en Suisse, on a voyagé toute la nuit dans le train, puis on entend un chocolat, café. Alors à ce moment-là, immédiatement, ça suscite en nous un désir de prendre quelque chose. Et toutes les propagandes sont faites comme ça, à base d'éveiller des besoins, d'éveiller des désirs. La psychologie étudie les liens qui existent entre ces différents conditionnements très complexes qui sont en nous, et le point de vue imaginatif, et le point de vue des instincts, et le point de vue des passions, du concupiscible et de l'irascible. On étudie tout ça. Est-ce qu'au niveau psychologique, vous pouvez discerner si ce désir que vous avez est un désir qui provient de l'image du Dieu ou des concupiscences? Non. Sauf quand ça devient excessif. Alors quand vous dites, quand vous êtes en face d'un alcoolique, vraiment un alcoolique qui se précipite sur le... Vraiment, il ne peut pas se passer de la bouteille, hein, c'est impossible. Alors là, vous pouvez dire que c'est excessif, ça provient sûrement des conséquences anormales. Mais quelle est la norme? C'est très difficile de savoir, hein, quand un psychologue vous dit « vous êtes anormal ». Pas drôle en PC, « vous êtes anormal ». Alors vous répondez « et vous aussi ». C'est la seule réponse à dire, parce qu'on est tous anormal. C'est tout, c'est évident, si on est un individu. On n'est pas exactement... C'est vrai, la norme, qu'est-ce que c'est que la norme? Qu'est-ce que c'est que d'être équilibré? Pour les psychologues, être équilibré, c'est de pouvoir vivre en société, en suffisamment de correction les uns par rapport aux autres, n'est-ce pas? Et que quand quelqu'un vous est à côté de vous, vous ne lui donnez pas un coup de pied ou un coup de poing pour 3 minutes, n'est-ce pas? Si vous donniez un coup de pied ou un coup de poing au bout de 3 minutes, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, on vous a discipliné suffisamment pour que vous n'ayez pas ces réactions. Vous êtes donc d'être équilibré. Qu'est-ce que ça veut dire d'être équilibré? C'est très très difficile de savoir ce qu'on sait que d'être équilibré. Je vois très bien les excès, je comprends très bien les excès. Oui, ça on comprend très bien. Ça dépasse la norme. Mais à quel moment le désir du chocolat est-il un besoin naturel qui relève de notre corps créé à l'image de Dieu, de notre corps vivant, ou que ça relève d'une concupiscence? C'est pas si commode que ça de faire le discernement. Au niveau psychologique, oui, absolument pas. Vous ne pouvez pas. Parce que vous êtes dans l'ordre du conditionnement et de l'exercice. Et dans l'ordre du conditionnement et de l'exercice, vous voyez les motivations. Et y a-t-il une motivation bonne ou mauvaise? Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas faire le discernement. C'est ça qui est très très difficile. Faire le discernement au niveau psychologique de ce qui relève des concupiscences et de ce qui relève tout simplement d'un appétit naturel. Quand je n'ai pas mangé depuis un certain temps, c'est normal, j'ai un appétit naturel. C'est pas du tout la concupiscence. Quand vous avez voyagé toute une journée et que vous n'avez pas pu boire, que vous avez soif le soir et que vous demandez un verre d'eau, vous dites « Ah, c'est une concupiscence. » Pas du tout, c'est un appétit naturel, tout simplement. J'ai l'appétit naturel, ça, et vous devez me donner ce verre d'eau. J'en ai besoin. Et si vous demandez un petit peu plus que le verre d'eau, ben vous avez encore le droit de le demander. Mais si vous sentez l'alcool et que vous demandez encore de l'alcool, vous dire attention, c'est peut-être là un désir. Vous voyez comme c'est difficile au niveau psychologique d'arriver, parce que tout est lié, c'est comme naturel à nous. C'est comme naturel, c'est quelque chose qui est né avec nous. Les concupiscences et notre nature et notre image, l'image de Dieu qui est en nous. C'est nié en même temps. Alors vous pouvez simplement discerner quand il y a des choses excessives. Vous voyez, selon certaines normes que vous avez dit, oui, ordinairement les gens se conduisent comme ça, voilà l'équilibre. Vous voyez, mais c'est uniquement de cette manière-là. Et vous verrez que dans les différents pays, suivant les différentes cultures, et si quelqu'un du Moyen-Âge revenait au milieu de nous maintenant, il dirait son. Tous fous. Ils sont tous fous, ces gens. On voudrait partir en auto, à toute vitesse, partir en désert immédiatement. Ils sont fous. Ils ont un rythme de vie qui n'est pas normal, qui n'est pas le rythme que nos grands-pères avaient. Alors, quel est l'équilibre? L'équilibre d'aujourd'hui n'est pas celui d'il y a 50 ans, n'est pas celui d'il y a 150 ans, n'est pas celui d'il y a 1000 ans. Sûrement pas. L'équilibre d'une famille. Comme c'est difficile de comprendre ce que c'est pour chacun d'entre nous. Alors nous essayons de comprendre un peu l'ordre des valeurs, mais vous voyez, c'est là pour vous montrer qu'au niveau psychologique, je peux simplement saisir certains excès, mais je ne peux pas saisir ce qui provient des concupiscences et ce qui provient d'un appétit naturel légitime. Je peux seulement, quand je suis en face de quelque chose qui est excessif, à dire non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je ne peux pas saisir si ça provient de l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint vient encore plus, si ça vient de l'Esprit Saint ou si ça vient tout simplement des concupiscences. C'est pas commode du tout. Le discernement est très difficile à faire. Et si j'ajoute qu'il peut y avoir, toujours en temps, d'un point de vue théologique, il peut y avoir une influence du démon. Le démon peut intervenir. Il faut donc arriver à discerner cette quatrième influence. Donc il y en a un, deux, trois avec l'Esprit Saint, et puis quatre, le démon. Et je suis le lieu de ce champ de bataille. Chacun d'entre nous, nous sommes le lieu de ce champ de bataille. Vous voyez comme c'est difficile de discerner. Au niveau psychologique, vous ne pouvez pas. Au niveau psychologique, vous déterminez un certain équilibre ou un déséquilibre. Très difficile, je crois. C'est ce que j'ai posé une fois à un psychologue. Je dis, on vous aurait amené Saint-François. Qu'est-ce que vous auriez dit? Saint-François, merci. Qu'est-ce que vous auriez dit? Tendance au déséquilibre. Trop excessif. Ne comprenant rien du tout ce que c'est que l'équilibre. Pourquoi? Parce qu'il y avait un très grand désir, très grand soif d'amour de Dieu pour eux. C'était excessif pour un psychologue. C'est bien évident. Vous auriez eu la grande Sainte Thérèse. On dit non, ça ne va pas. C'est quand même des choses qui ne vont pas. Mais on ne peut pas. Les saints sont au-delà de l'équilibre du psychologue. Et pourtant, ils sont plus hommes que les autres. Mais ils sont au-delà de ce qu'on représente l'équilibre habituel. Vous voyez, c'est très délicat, ça, et c'est très important de saisir ça. Et là, nous, de nouveau, nous saisissons la différence entre le point de vue psychologique, le point de vue théologique et le point de vue philosophique. Le philosophe, lui, va essayer de comprendre quelle est la finalité propre de l'homme. Et en saisissant la finalité, il dépasse l'équilibre. Le psychologue reste au niveau de l'équilibre. Tandis que le philosophe saisit la finalité. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On va revenir là-dessus, entre l'équilibre et la finalité. Parce que l'équilibre humain n'explique rien. Parce que si vous changez de lieu, si vous changez de civilisation, l'équilibre est différent. Tandis que la finalité demeure la même. Elle demeure la même. La finalité de l'homme du Moyen-Âge et la finalité de l'homme d'aujourd'hui, elle demeure la même. La seule différence, c'est que c'est plus difficile de l'atteindre qu'au Moyen-Âge. Donc, nous devons lutter plus. Ça, j'en suis sûr. Parce que tout le climat dans lequel nous vivons ne nous aide pas à découvrir notre finalité. Tout le climat dans lequel nous vivons est quelque chose de très pesant, très lourd. C'est fini. Bon, alors nous allons, mais c'était bien, il faut essayer de voir ces choses-là. Nous allons continuer, si vous voulez, le petit effort que nous avions fait ce matin. Je crois que je vais encore continuer un peu le point de vue philosophique, et puis ce soir nous nous remettrons dans le point de vue de la foi. Mais je crois que c'est important d'essayer de comprendre tout de suite le premier grand problème philosophique, la découverte de l'âme. Parce que demain, nous reviendrons sur ce problème d'une autre manière. Mais j'aime mieux, au moins dès ce soir, déjà nous mettre sur la piste de cela. Qu'est-ce que je constate au point de vue de mon expérience? Je n'ai jamais eu l'expérience de mon âme séparée. C'est très dangereux, quelqu'un qui me dit qu'il a l'expérience de son âme séparée. C'est-à-dire, on peut avoir quelquefois, dans des rêves, l'impression d'être spirituel, de pouvoir voler, de pouvoir faire des choses extraordinaires, de laisser notre corps dans notre lit, puis sortir de là, partir. C'est très très bien. Mais quand on se réveille, on dit, oh, tiens, je suis toujours le même. Hein. Bon. J'ai l'expérience de mon unité d'être. Ça, j'ai l'expérience de mon unité d'être. Quand vous vous réveillez le matin, j'espère que vous ne vous posez pas trop le problème pour savoir si c'est la même personne qui s'est endormie la veille. Ça devient très dangereux de vous poser la question. Vous vous êtes endormi. Vous étiez fatigué, vous êtes endormi. Vous avez bien dormi. Puis vous vous réveillez. Ah, je me suis reposé. Ah, ça va bien ce matin. Puis à côté, il vous dit... Est-ce que tu es la même personne qu'hier? Est-ce que c'est une autre personne? Est-ce qu'il y a eu une métamorphose? Est-ce que c'est réalisé? Bon, vous pouvez vous poser, est-ce que vous qui êtes ici maintenant, est-ce que vous êtes la même personne qu'il y a 10 ans? Il y a 10 ans. Vous avez des souvenirs quand même, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, vous ne seriez pas venu à l'eau vive suivre un cours de philosophie, n'est-ce pas? On en voit qui ont 10 ans de moins que nous, ils ne suivent pas les cours de philosophie. On a dit, tu es trop petit. Qu'est-ce que ça veut dire d'être trop petit? Et qui suivent maintenant des cours de philosophie. C'est très curieux, nous avons une conscience de la durée de notre être. Et de l'unité de notre être. Nous avons une conscience de la durée de notre être. La durée, le soir, le matin... Nous avons la conscience de ce que représente la durée au milieu de une année, 2 années, 3 années, 4 années. Et si nous commençons à être dans la période de la vie montante, Nous avons la conscience que nous sommes dans la vie montante, c'est-à-dire la vie descendante. Nous descendons et nous essayons, nous faisons tout l'effort que nous pouvons pour ne pas descendre trop vite. Alors on freine le plus qu'on peut pour ne pas descendre trop vite. Tandis que quand on monte, on fait tout l'effort inverse pour monter le plus vite possible. C'est très curieux ces choses-là. Il y a une espèce d'autodéfense de l'être humain. Et ça, c'est le sens de la continuité de notre être. Nous avons un sens de l'unité profonde de notre être. Un sens de l'unité et de la continuité, de la durée de notre être. Très important de comprendre ça. Vous voyez, Bergson avait très très fort senti. Et c'est un des philosophes qui a mis ça le plus en lumière. Le sens que le vivant a le sens de la durée. Mais c'est surtout l'homme, parce que je ne crois pas que le cheval ou le chien, demandez tout à l'heure hein, au chien, demandez au chien s'il a le sens de sa durée. Il vous aboiera comme réponse, pas c'est-à-dire il vous montrera qu'il n'a rien compris du tout. Le chien n'a pas le sens de sa durée. Un arbre, est-ce qu'il a le sens de la durée? Vous avez le sens de la durée d'un arbre. J'ai planté cet arbre il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ce chien, je l'ai vu naître. Ou ce petit chat, je l'ai vu naître. Il a tel âge. C'est vous qui lui dites ça. Vous avez le sens de la durée de votre être. C'est très curieux. Et plus on avance, plus cette durée est intense. Et c'est pour ça que ça va toujours de plus en plus vite. Vous avez le sens de la durée d'une journée. Il y a des journées qui sont très longues. Il y a des journées qui vont très vite. Ceux qui sont encore obligés de subir des cours, il y a des cours qui vont très vite et des cours qui vont très lentement. Il y a des sermons qui sont très longs et des sermons qui vont très courts. C'est très curieux, ça. Il y a des nuits qui passent comme à toute vitesse. Hein. Et puis il y a des nuits qui sont très longues. Quand vous n'arrivez pas à dormir, quand vous souffrez, une nuit d'hôpital, c'est terrible. C'est curieux ça, vous voyez, il y a le temps et la durée. Et plus nous prenons conscience de ce que nous sommes, plus notre conscience est profonde, plus la durée l'emporte sur le temps. C'est un grand, grand phénomène tout à fait particulier qu'il faut bien comprendre. Là. Nous avons ce sens de l'unité profonde du développement de l'être, du développement du vivant. Ça, c'est très important de comprendre ça. Cette conscience que nous avons, et cette conscience que nous avons actuellement, hein, parce que je ne sais pas la conscience que j'avais, je ne sais pas à partir de quel moment vous avez une conscience de ça, je n'en sais rien. Il y a peut-être été un petit génie. Alors, dès que vous étiez dans le sein maternel, vous aviez déjà conscience qu'il fallait attendre un certain temps avant de sortir des entrailles de la mère. Hein. C'est possible. Les psychanalystes aujourd'hui disent qu'on peut avoir cette conscience-là. C'est possible. Je ne l'ai pas, heureusement. Heureusement, je n'ai pas fait d'attente. Tandis que ceux qui ont eu cette conscience-là, ils ont attendu longtemps. Avant. Ça devait être très long. Très long d'attendre. Parce qu'à ce moment-là, on n'a pas une conscience très aiguë. Et donc, ça doit être très long. Si le principe que je vous disais tout à l'heure est vrai, que plus nous prenons conscience de ce que nous sommes, plus notre conscience brûle le temps. Nous brûlons le temps, c'est très très curieux ça. Je vous affirme, hein, personnellement, une année pour moi, aujourd'hui, ça me semble très peu de choses, comparativement à il y a 20 ans. Plus on avance, plus ça va vite. Vraisemblable. C'est pas ce qui se passe. Alors évidemment, si dans le sein maternel, ça devait être très lent. Ça. Si vous n'avez pas conscience beaucoup, donc on était vraiment dans une état de trouver que c'était très très long. Voyez, c'est comme un arbre. Un arbre de 100 ans, c'est peut-être 1000 ans. Pour l'arbre, parce qu'il n'a pas de conscience de sa durée. Donc ça peut être extrêmement long. J'ai conscience de l'unité de mon être. J'ai conscience de ma durée, de mon unité de ma personne à travers les différentes étapes. Et en même temps, j'ai conscience de ma très grande complexité. Alors ça, c'est très important. de bien saisir. J'ai conscience de ma très grande complexité. Alors là, énuméré, hein, je porte tout énuméré, c'est tellement facile de comprendre cette complexité. Je dors. Nous avons tous conscience, quand même, à un moment donné, de dormir. Au moins conscience. Cherchez pas trop ce soir à avoir conscience du moment où vous allez vous endormir, parce que vous n'allez plus dormir. Hein. Alors ce serait très très mauvais pour demain. Alors ne cherchez pas, faut chercher le moment. C'est-à-dire, on passe, on bascule, c'est très très curieux. C'est cette manière de basculer tout d'un coup, ce mot-là. Je ne sais pas trop quoi. Et les gosses ont ça, ils ont pour ça qu'ils ont peur de la nuit. Il y a une espèce de peur de basculer dans quelque chose. Alors que quand on est plus âgé, on a plutôt bien dormir, se reposer. Ça fait du bien de se reposer. On dort, on se réveille tous les jours, plusieurs fois par jour, quelquefois. Ça peut arriver, on est très fatigué. Puis qu'on suit des cours. Alors on se réveille plusieurs fois par jour. On fait cette expérience-là. On fait l'expérience de manger. Petit déjeuner, c'est agréable. Puis l'expérience de manger plusieurs fois par jour, de boire. Faites l'expérience de regarder le paysage. C'est beau, il y a du beau soleil, magnifique, bien au contraire, il pleut. Fait froid, fait chaud. L'expérience des sensations du milieu dans lequel on est. On a l'expérience de tous les sens, de toutes nos sensations. Ça fait partie de notre être, ça. Et si nous sommes sensibles aux odeurs, nous sentons quelquefois quelque chose d'agréable ou désagréable. Quand on est en auto et qu'on passe devant une usine de chimie, c'est pas très agréable. On se dit, qu'est-ce qui se passe là? Ou bien ça sent le caoutchouc brûlé, on se dit qu'est-ce qu'il y a, mais immédiatement on s'interroge. Donc on a des sens qui nous font toucher le milieu dans lequel on est. Nous sommes des êtres sensibles au milieu dans lequel on est. Ça fait partie de la diversité de nos contacts avec le réel. Puis nous pouvons très bien à certains moments nous arrêter, fermer nos yeux, ne plus rien entendre. Puis alors à ce moment-là, l'imagination va à la campagne. Extrêmement curieux. Et c'est quelquefois le lieu à la chapelle où ça vole plus la campagne. Je veux prier, Oui, très très bien, je veux prier. Et puis, fou, là-bas, l'imagination. Qu'est-ce que je vais faire tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il y a eu hier? Qu'est-ce qu'il n'y a pas?